France Inter, il est 13h. Le 13-14. Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus au sommaire aujourd'hui. Le Minotaure est dans l'arène, 14h45. Raphaël Nadal, 36 ans, demi-finale à Roland-Garros face à Zverev. Ce n'est que du sport et un peu plus que cela. À quel moment un grand champion perd-il le match face au temps qui passe? 100e jour de guerre en Ukraine, y a-t-il un risque de pénurie de pétrole? Ça ressemble à un deal. Joe Biden retrouve le chemin de l'Arabie Saoudite, pays jugé paria naguère, au moment où les producteurs de pétrole ouvrent les vannes. Quand les Alpes en haute altitude se couvrent de végétation, c'est une marque de plus du changement climatique, étude de scientifiques suisses. Y a-t-il un trou d'air en Macronie? Intention de vote serrée avec l'union de la gauche avant les législatives, cote de popularité pour le président en baisse et campagne qui ne décolle pas. Nous ferons le point avec Simon Le Baron. Dans l'actualité encore, un gros coup de grêle dans le Bordelais hier, gare aux orages aujourd'hui dans le sud-ouest. Un métallo à la tête de Force Ouvrière, Frédéric Souillot, doit prendre la tête du syndicat ce soir. Et France-Danemark en football, occasion de taper dans l'œil du sélectionneur Deschamps à 6 mois du Mondial. À 13h30, l'exigence de probité progresse-t-elle chez nos élus et ministres? Notre invité sera Didier Migaud, président de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, l'homme qui épluche les déclarations de patrimoine. Quel pouvoir? Comment améliorer encore les garanties de transparence dans la vie politique? 01 45 24 7000 pour vos questions. Et dans C'est une chanson avec Frédéric Pommier, Alors on danse de Stromae. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Jeune amateur de tennis, nous allons te conter modestement l'histoire d'Achille, ce héros invincible qui n'avait qu'une fragilité, le pied. Tout concourt à faire de cet après-midi à Roland-Garros un grand moment pour qui est sensible au sport. Raphaël Nadal en demi-finale, il a sa statue près du court central au sens propre. C'est dire à quel point il se passe quelque chose d'unique entre ce tournoi et ce joueur. 13 victoires, ce qui fait de lui le tennisman le plus titré du tennis. Mais le temps effrite la statue. Nadal a 36 ans aujourd'hui même. Il traîne de longue date une douleur lancinante au pied. Et dans 1h15 se dressera face à lui l'Allemand Alexander Zverev, 11 ans de moins, et auteur lui aussi d'un tournoi monumental. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour Bruno.
Vous êtes en direct de Roland-Garros. Parfum très particulier Jérôme, à moins de 2 heures des premiers échanges.
Oui, drôle d'anniversaire, vous l'avez dit, pour Raphaël Nadal. Il va le fêter sur le court central, cette fois en plein jour, après sa qualification marathonesque en nocturne face au numéro 1 mondial Novak Djokovic. Mais oui, l'ambiance sera comme suspendue dans les tribunes, comme la crainte d'assister au crépuscule de celui qui est chez lui ici sur la terre battue parisienne en quête d'une 14e couronne. Depuis le début de la quinzaine, il a montré que oui, il est le maître, un maître au corps meurtri par toutes ces années au plus haut. Ce pied, vous l'avez rappelé, qui le fait souffrir et qui est sa seule faille pour l'instant. Le duel est d'autant plus attendu qu'en face, c'est le numéro 3 qui se dresse, l'Allemand Alexander Zverev. Il ne compte à 25 ans qu'une seule finale en Grand Chelem. C'était à New York pour l'US Open en 2020, finale perdue. Alors c'est vrai, il a impressionné au tour précédent pour sortir le prodige espagnol Carlos Alcaraz. Dans son jeu, dans son attitude aussi, il lui en faudra pas moins pour mettre fin au règne de Nadal. Raphaël Nadal, qui depuis ses débuts à Roland-Garros, n'a perdu que 3 matchs en 113 disputés. Statistique, vous en conviendrez Bruno, complètement hallucinante.
Alors que dire de Nadal qui n'est pas été dit? En ligne avec nous, Laurent Binet, bonjour.
Bonjour.
Écrivain, co-auteur d'un dictionnaire amoureux du tennis paru il y a 2 ans et vous publiez également un texte dans le dernier numéro de la revue Légende consacré à Nadal. Alors tout le monde vante la volonté de Nadal, l'homme qui ne s'avoue jamais vaincu. Vous, vous mettez en avant son relatif détachement sur le thème qu'on gagne ou qu'on perde, la vie continue.
Oui, bah je crois qu'il a ce recul. Enfin, c'est ça qui est très fort parce qu'il a une volonté de vaincre absolument farouche et en même temps, il se souvient que c'est qu'un jeu et je pense que ça c'est l'une des clés pour durer, c'est de faire son métier comme un jeu. C'est mieux quand on aime ce qu'on fait et je crois que c'est son cas quoi.
C'est une brute et un créateur. Écrivez-vous là encore, on vante le jeu de fond de court de Nadal, ses coups hyper puissants. Vous dous dites, il a aussi la main, c'est un excellent volleyeur.
Oui, oui, absolument. Mais c'est, on faisait déjà la même erreur sur Borg et Villas, en fait. C'est des joueurs de fond de cours. Mais Nadal, il vient pas souvent au filet, mais quand il vient, il fait toujours des volées exceptionnelles. C'est-à-dire, parfois, il a juste un smash facile, mais déjà, il est très, très doué en smash.
Oui.
Et il est très, très doué dans tous les, dans tous les secteurs. Surtout pour quelqu'un qui lift et qui a un revers à deux mains. C'est-à-dire, c'est un geste complètement différent. C'est un jeu, un sport complètement différent. La volée et le jeu de fond de cours lifté à deux mains. Et les deux, c'est deux jeux complètement différents. Il les maîtrise absolument.
Il y a un rapport à la souffrance très particulier chez ce joueur qui traîne cette blessure au pied depuis des années et qui continue de jouer et qui a l'air presque d'aimer souffrir.
Ouais, ça j'en sais rien. Oui, sûrement. Si, c'est-à-dire, c'est comme il y a un côté marathonien probablement. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, ça fait 15 ans que tout le monde dit, et moi aussi, et d'ailleurs lui-même, que ça pourra pas continuer très longtemps. Que déjà après un an après son premier Roland Garros, l'année d'après, on commençait à se demander, lui commençait à se demander si à cause de son pied il allait pas arrêter. Et puis 15 ans après, il en est là. Donc c'est pour ça que tout le discours sur le côté crépusculaire là que lui-même met un petit peu en scène, en sous-entendant que ce serait son dernier Roland Garros, me semble un petit peu prématuré, parce que avec ces gens-là, on sait jamais. Le Federer, il était encore en finale à Wimbledon à 39 ans. Alors évidemment, il a pas le même type de jeu, mais je voudrais dire quelque chose quand même à propos de ce crépuscule de l'idole éventuelle. C'est que bon, là, on a quand même eu le match de l'année il y a trois jours. Et en fait, c'est quand même il y a quelque chose de moche, parce que pour qu'un match reste dans la légende, il faut qu'il reste dans la mémoire des gens, il faut que les gens le voient. Et en fait, cette histoire de session nocturne a eu pour résultat, alors je sais bien qu'Amazon a autorisé la retransmission gratuite, mais en fait, le fait que la retransmission ait été le soir a eu pour résultat qu'aucun enfant n'a pu le voir. Et en fait, ce qui construit la mythologie d'un sport, l'histoire d'un sport, c'est quand même l'imaginaire des enfants. Moi, j'ai vraiment grandi, enfin, France-Allemagne 82 en foot, ou Lendl McEnroe 84 à Roland-Garros en finale, ça a forgé une partie de mon imaginaire. Et là, cette fois-ci, pour quelques millions, les dirigeants de Roland-Garros ont pas respecté Nadal qui voulait jouer dans la journée.
Ouais.
Déjà, il a gagné 13 fois, on lui refuse une demande somme toute modeste. Mais ils ont pas respecté non plus le jeu, l'histoire du jeu, et ils ont insulté l'avenir d'une certaine manière, parce que sans doute, mardi soir, il y a un ou plusieurs enfants qui n'ont pas vu le match, qui, s'ils l'avaient vu, auraient peut-être gagné Roland-Garros dans 15 ans, parce que ça aurait fait naître une vocation, ils auraient vu ce truc épique. Enfin,
il fallait veiller jusqu'à 1h30 pour le voir.
1h du matin, en semaine, oui, bon.
Ça fait beaucoup.
École, hein.
Laurent Binet, jamais, au grand jamais, Nadal n'a été testé positif à un contrôle antidopage. Son comportement sur le court, c'est le fair play absolu, mais sa résistance au temps et sa masse musculaire laissent beaucoup de gens sceptiques. Est-ce que Nadal dopé, ça vous a déjà traversé l'esprit?
Ça m'a traversé l'esprit comme tout le monde, mais enfin de toute façon, c'est-à-dire là on parle pas d'athlétisme, si vous voulez le dopage, ça, peut-être vous, enfin moi je sais pas comment ça marche, mais enfin peut-être que dans le cinquième set ça peut vous donner un petit coup de fouet quand vous commencez à tirer la langue, mais c'est pas ça qui vous fait sortir le passing en bout de course ou ou l'amorti rétro ou le geste juste quoi, hein, donc oui. Non, je sais pas. J'ai pas d'avis sur la question.
Mais c'est noté. Merci Laurent Binet d'avoir pris quelques minutes pour partager votre passion du tennis avec nous. Nadal Zverev donc tout à l'heure 14h45. Puis l'autre demi-finale quand même. Casper Ruud, le Norvégien face au Croate Marin Cilic. Et en football ce soir, France Danemark en Ligue des Nations. On parle de l'aspect sportif tout à l'heure. C'est le premier match au Stade de France depuis la soirée de cohue samedi dernier. 2000 policiers et gendarmes mobilisés comme samedi dernier. Appel à la grève sur le RER B, même si la RATP prévoit une circulation des trains quasi normale.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvy.
Au centième jour de guerre, la situation dans l'est de l'Ukraine est vraiment difficile, reconnaît le président Zelensky. 60 à 100 soldats tués par jour dans ses rangs. La Russie occupe 20% désormais du territoire ukrainien, selon le gouvernement de Kiev. Centième jour donc. Et nous avons, à ce cap symbolique, envie de retrouver l'un de nos témoins du début de la guerre. Bonjour Cécilia Arbonin.
Bonjour Bruno.
Il s'appelle Oleg, il habite Dnipro, centre-est, ce n'est pas le Donbass sous les bombes, mais quand nous l'avions joint le lendemain du déclenchement de la guerre, les bombes étaient bel et bien là.
Oui, ce chef d'entreprise parfaitement francophone qui a été en 2014 fixeur, c'est-à-dire traducteur pour des équipes de Radio France, est tiré de son sommeil par des déflagrations assourdissantes. Nous sommes le 24 février.
Brusquement, ce matin, il y a un nouveau conflit qui éclate avec une force incroyable.
Pendant 2 semaines, Dnipro, sa ville, vit au rythme de la terreur. Oleg, vous l'interviewez à nouveau, Bruno. Nous sommes le 11 mars et il vous annonce qu'il préfère mettre ses proches à l'abri.
Demain matin, elles vont prendre le train. On a préparé les valises pour qu'elles puissent s'échapper, se mettre à l'abri vers la Pologne ou vers la Belgique.
Mais à la gare ferroviaire de Dnipro, il y a beaucoup trop de monde. Des femmes, des enfants flanqués de valises, de gros sacs de vêtements chauds et de peluches. Alors la famille d'Oleg fait demi-tour et c'est ensemble qu'elle vit, cette famille, ou plutôt survit depuis 100 jours.
Surtout les nuits, quand il y a les coups de sirène pour se cacher dans le couloir. Ça touche énormément ma fille, ça touche énormément ma femme, mentalement, physiquement. À Dnipro, il y a beaucoup, beaucoup de réfugiés. Donc on voit une foule de gens, une foule d'enfants. Et on comprend bien que ce sont les réfugiés d'après leur habit, d'après leur comportement. Profondément, ça touche le cœur. C'est la guerre qui est à côté, qui est à 100 km de Dnipro, et qu'il y a des missiles qui passent au-dessus de nos têtes, des explosions. Mais on vit avec. On vit avec.
L'année scolaire est terminée en Ukraine. La fille d'Oleg s'occupe comme elle peut dans sa chambre. Elle est toujours enfermée. Elle papote avec ses copines via la webcam de son ordinateur. Son papa lui a expliqué ce qu'elle avait déjà compris. Pas de vacances d'été cette année.
Et en ce centième jour de guerre, bataille de communiquer, le Kremlin estime avoir atteint certains résultats en 100 jours d'offensive. C'est l'expression utilisée. Volodymyr Zelensky affirme la victoire sera nôtre. Cette guerre n'a et n'aura pas de vainqueur, dit le coordinateur. Coordinateur de l'ONU de son côté. Il déplore les destructions de vies, les dévastations de villes et de villages, les emplois et les perspectives perdues. Guerre qui a bouleversé le marché mondial de l'énergie. Le baril de pétrole Brent était sous les 100 dollars le 23 février, la veille de la guerre. Il est autour de 115 aujourd'hui, après avoir frôlé les 140 dollars. Et l'Union européenne s'est mise d'accord pour frapper d'embargo dans les mois à venir le pétrole russe. Décision déjà prise par les Américains en mars. Alors y a-t-il risque de pénurie? En tout cas, la décision de l'OPEP plus, les grands producteurs de pétrole mondiaux, d'augmenter leur production en juillet, plus de 200 000 barils supplémentaires par jour. Cette décision est la bienvenue. Parmi les pays leaders, l'Arabie Saoudite. Est-ce une coïncidence, Omar Waman? Dans le même temps, Joe Biden, le président américain, qui avait promis de traiter le royaume en paria après le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, eh bien Joe Biden prépare une visite en Arabie.
Si les détails logistiques et la date précise du déplacement ne sont pas confirmés, la décision est actée. Le président américain se rendra bien à Riyad dans les prochaines semaines pour rencontrer le prince héritier qu'il qualifiait avant son élection d'infréquentable. Le roi Salman devenant l'interlocuteur privilégié de Washington. Mais la guerre en Ukraine a changé la donne et poussé Joe Biden à revoir sa position. Car le prince héritier d'Arabie Saoudite, le véritable homme fort du royaume, a su profiter de cette crise, notamment en refusant de limiter la flambée des prix du pétrole aux grandes dames de Washington. Riyad, pilier de l'OPEP, a finalement accepté de doper sa production en échange, selon le Wall Street Journal, d'un soutien accru des États-Unis dans sa guerre au Yémen et contre une aide pour son programme nucléaire. Deux requêtes au cœur de la rencontre prévue à la fin du mois de juin, face à face qui fait d'ores et déjà grincer des dents au Congrès américain et au sein même de l'opposition saoudienne qui accuse les États-Unis de trahir ses valeurs.
Et la hausse du coût de l'énergie liée à la guerre en Ukraine représente une grande part de l'inflation. Elle n'est pas seule, loin de là, à expliquer le chiffre délirant de l'inflation en Turquie. Plus 73,5% sur un an. C'est l'un des chiffres de la matinée. En France, l'inflation est au-delà des 5% sur un an. Les mesures pour le pouvoir d'achat, la question des salaires sur fond de pénurie de main-d'œuvre et la réforme des retraites vont occuper les débats dans les semaines et mois à venir. Et du coup, la personnalité des leaders syndicaux sera un élément important. Chez Force Ouvrière, le patron va changer. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Frédéric Souillot va remplacer Yves Verrier ce soir. Il a 54 ans et il connaît le syndicat de la cave au grenier.
Ouais, avec son look de biker, un peu Dennis Hopper dans Easy Rider, la moustache bien taillée, c'est elle qu'on voit en premier. Personnalité qui détonne à première vue, boucle d'oreille avec ça. Ne vous y trompez pas, derrière ce physique et ce cœur de rocker se cache quelqu'un de rassembleur, habitué, féru de la négociation, comme le décrivent ses proches, à classer parmi les les réformistes à FO, jusqu'ici cantonné à la branche métallo. Frédéric Souillot, qui est arrivé à Force Ouvrière après avoir créé son syndicat en 95 chez Schlumberger à Dijon. Il prend donc là les clés de la grande maison, et à ceux qui lui prêteraient une attitude un peu brute de décoffrage, c'est ce qu'on entend de la bouche de quelques militants, ses soutiens rétorquent que Frédéric Souillot, Fred pour les intimes des intersyndicales, est un homme qui tranche, c'est vrai, mais qui tranche après avoir écouté. Par contre, une fois le débat derrière, sa décision prise, c'est terminé. Il fera du coup sans doute un bon secrétaire général, s'amuse un de ses amis chez FO. Sa mission commence aujourd'hui.
Et à 9 jours des élections législatives, nous nous arrêtons aujourd'hui dans une circonscription très particulière, la 8e du Nord, à Roubaix. C'est ici qu'a été tourné le reportage d'M6 sur l'islam radical qui gangrène la vie quotidienne. Un des témoins clés est candidat aux législatives. Par ailleurs, cette circonscription fait partie de celle que la NUP de Jean-Luc Mélenchon espère emporter. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Ce reportage continue, Maxence, d'alimenter la campagne.
Deux policiers, armés, en civil, parcourent le marché avec lui.
Il faut prendre aujourd'hui des pinces à sucre pour dire la vérité parce que ça heurte.
Amine Elbaï, candidat LR, menacé de mort depuis ce reportage.
La mise sous protection policière n'a pas changé ma façon de faire campagne.
À 26 ans, ce fils d'ouvrier promet de ne faire aucun amalgame.
Moi j'ai dénoncé une minorité, les habitants l'ont parfaitement compris, moi je le vois sur le terrain. Beaucoup de gens d'ailleurs me remercient d'avoir dit tout haut ce qu'il pense tout bas.
Même les gens de son propre parti ne l'aiment pas. Quand tu salis Roubaix, c'est même l'immobilier qui prend un coup.
Ça, c'est un jeune candidat sans étiquette, Émeric Paco, élu à Tourcoing sur la liste de Gérald Darmanin.
Pour moi, c'est pas un débat. Ici, on est une ville de diversité. Les gens se mélangent, travaillent ensemble, font de l'associatif ensemble.
Pas de problème non plus pour le candidat de la gauche, David Guiraud.
On n'est pas en face de gens intégristes, on n'est pas en face de gens qui ont un agenda politico-religieux, c'est pas vrai.
Voici maintenant deux réactions surprenantes. Celle de la députée sortante En Marche, Catherine Hausson, qui trouve qu'Amine Elbaï cherche les problèmes.
Il est obligé d'être protégé par la police. Enfin, c'est sincèrement triste, mais quand on en arrive là, à un moment, il faut se poser la question. Je pense que quand on en arrive là, c'est qu'on n'a pas eu le bon message. Ça, c'est clair. J'ai le cœur brisé quand j'entends des Zemmour me dire « l'Afghanistan à une heure de Paris ».
Devant la mairie de Roubaix, la candidate du RN, ancienne centriste, Rachida Sahraoui, détonne à son tour.
La gauche a parqué, excusez-moi l'expression, même voire ghetto, des endroits, et aujourd'hui on vient crier à l'islamisme. Non, je suis désolée. Ce qu'il faut montrer du doigt, c'est la pauvreté qui engendre ce genre de demande. Et là, éventuellement, on pourra discuter.
Ce qui est assez loin du discours de Marine Le Pen.
Alors Maxence, cette circonscription, je le disais, Jean-Luc Mélenchon espère bien l'emporter. Il y a dépêché un de ses lieutenants qui n'est pas de la région.
Oui, il a fait 52% au premier tour à Roubaix. Il lance donc un de ses porte-parole, David Guiraud, 29 ans, assistant parlementaire des Insoumis.
C'est bien d'être du coin, mais si c'est pour faire la retraite à 65 ans, ça apporte quoi en fait ? C'est bien de bien connaître les gens, mais si c'est pour pas bloquer les prix ou pas augmenter les salaires, à quoi ça sert ? Et la discussion, elle se situe à ce niveau-là avec les gens.
La voici à l'œuvre maintenant son adversaire, la députée En Marche, Catherine Hausson.
Moi, j'ai en face de moi un Parisien qui se déplace sur ma circonscription avec un GPS, qui croit encore qu'on a de la fumée qui s'échappe de nos usines. Il a déjà annoncé qu'il n'habiterait pas la circonscription.
Plutôt qu'il habiterait à mi-temps à Paris, mais n'oublions pas le sujet qui domine.
Le vrai sujet pour l'instant, c'est le pouvoir d'achat.
Le pouvoir d'achat ?
C'est le pouvoir d'achat.
Le pouvoir d'achat, malgré tout, au cœur de cette campagne.
10 candidats en tout dans cette 8e circonscription. Vous avez la liste sur franceinter.fr et d'autres éléments concernant cette campagne. La NUP va-t-elle l'emporter à Roubaix ? En tout cas, selon les sondages d'intention de vote, qui ne sont pas des prévisions, l'union de la gauche et la majorité présidentielle sont à touche-touche au premier tour en termes de voix avancées législatives dimanche de la semaine prochaine. Ajoutons un autre sondage de popularité, celui-là qui montre un recul de la côte d'Emmanuel Macron. Simon Le Baron, il y a un trou d'air dans le camp du président de la République.
Au point qu'une inquiétude apparaît dans ses rangs, pas tant celle de voir Jean-Luc Mélenchon Premier ministre que celle de perdre la majorité absolue à l'Assemblée. L'Institut ELAB donne entre 275 et 315 députés au président, l'IFOP entre 275 et 310. La majorité absolue étant de 289, si l'hypothèse basse se réalisait, ce serait 5 ans sous pression pour Emmanuel Macron à devoir chercher en permanence des alliés de circonstance, un coup à droite, un coup chez les sociaux-démocrates anti-NUP. Certes, vous l'avez dit, les sondages nationaux sont difficiles à interpréter pour 577 élections locales, mais ils dessinent cette absence d'état de grâce pour Emmanuel Macron avec une cote de confiance à 32% seulement et qui baisse, y compris au cœur même de son électorat.
Alors, quels éléments d'explication ? Qu'est-ce qu'on perçoit en reportage et en coulisses, Simon ?
Une campagne en état de mort cérébrale, personne dans les réunions l'opinion publique, des gens qui nous disent « on n'en peut plus de la politique ». Voilà, ça c'est ce que nous raconte un cadre pourtant bien implanté chez lui. Emmanuel Macron en est en partie responsable, rien pendant un mois, soi-disant pour ne pas donner de munitions à ses adversaires. Et quand il sort cette semaine sur l'école et l'hôpital, cela n'imprime pas dans l'opinion. J'espère qu'il en garde sous la pédale, pourquoi pas une annonce forte sur le pouvoir d'achat la semaine prochaine, ça c'est ce qu'imagine un candidat. Ajoutez-y la polémique d'Amien Abad, le fiasco du Stade de France, et certains macronistes se projettent déjà sur un premier tour raté, tout en essayant de se rassurer. Une bonne frayeur aurait au moins le mérite, nous dit l'un d'eux, de mobiliser nos électeurs pour le second tour.
Parmi les promesses avancées pour ce deuxième quinquennat Macron, une action résolue en faveur de la transition écologique. Une étude supplémentaire vient renforcer le sentiment d'urgence. Les Alpes en haute altitude se couvrent de végétation. Une marque de plus du changement climatique. Bonjour Célia Quiret.
Bonjour Bruno.
C'est une étude de scientifiques des universités de Bâle et Lausanne en Suisse qui est publiée dans la revue Science.
Oui, c'est comme en Arctique, le réchauffement est plus fort en montagne et sur les pôles que sur le reste de la planète. La neige disparaît et la hausse des températures fait pousser la végétation. Il y a davantage de pluie et la saison de croissance des plantes s'allonge. Les images satellites sont saisissantes. Le vert remplace progressivement le blanc. Les chercheurs ont regardé les régions au-dessus de 1700 mètres d'altitude et ils ont exclu les forêts. Sur près de 10% de la surface, il n'y a plus de neige en été alors qu'il y en avait il y a 38 ans. Cela concerne les sommets vers 3000 mètres d'altitude et surtout, la végétation est beaucoup plus présente et productive sur 80% des sommets des Alpes. C'est l'écrasante majorité de cette zone qui devient verte. De nouvelles plantes apparaissent et des espèces habituelles pour des altitudes plus basses colonisent ces espaces. Les plantes alpines endémiques des hautes altitudes sont même dépassées par la concurrence. La biodiversité des Alpes subit une pression considérable. Or, ce verdissement a des conséquences. Manque d'eau potable dans certaines régions, modification des habitats, effet sur le tourisme et le ski en particulier.
En pleine, loin des sommets des Alpes, gare aux orages dans le sud-ouest de la France aujourd'hui, 10 départements en alerte orange, on retrouve Jean-Pierre Hameau tout à l'heure. La Gironde n'est pas concernée, c'est hier matin qu'elle a vu passer la grêle, 5 minutes au petit matin autour de 6h et de gros dégâts dans les vignes. La Chambre d'agriculture de Gironde doit faire un point de la situation en début d'après-midi. Il est des décisions économiques comme des marqueurs de l'époque. Matine, les œufs, va cesser son activité. 172 salariés, s'il n'y a pas de repreneur d'ici là, l'entreprise arrêtera cet automne. Elle paye la très mauvaise image des œufs produits par des poules en cage. Arrêt sur audience, notre rendez-vous régulier pour vous raconter le procès des attentats du 13 novembre. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Charlotte, en direct du palais de justice de l'île de la Cité à Paris. Alors nous sommes en principe dans le dernier mois de ce procès fleuve qui en est à sa 35e semaine. Ce sont les plaidoiries des parties civiles, les représentants des victimes. Et cette semaine à l'audience Charlotte, deux grands mots sont beaucoup revenus, l'amour et la haine.
Oui, l'amour, c'est l'amour salvateur, celui qui a permis de se reconstruire après ces attentats, celui qui a donné naissance à de nombreux enfants post 13 novembre, l'amour de la liberté aussi, l'amour de Paris plaidé cette semaine également. Paris est votre défaite, a lancé Maître Klugman à l'adresse des accusés. L'amour et les amitiés, celles d'avant les attentats qui ont aidé pour après, celles nées dans la chaleur des associations de victimes. Il en a également été question lors des plaidoiries cette semaine, celles nées ici aussi à ce procès. Il en a encore été question là aussi. Et puis, parce que avec l'amour vient parfois aussi la haine, et ce célèbre texte « Vous n'aurez pas ma haine », je ne sais pas si vous en souffrez, l'amour vient...
Oh, la petite rupture de liaison avec Charlotte Piret au Palais de Justice de Paris. Est-ce qu'on a récupéré Charlotte? On me fait signe que non pour l'instant. On va la récupérer dans quelques minutes. Un mot de... Charlotte, vous êtes revenue? Est-ce que vous êtes avec nous?
Je vous entends.
Vous m'entendez? Ben, je vous entends et
oui,
vous êtes à l'antenne.
Je parlais effectivement de haine et de ces références au texte Vous n'aurez pas ma haine d'Antoine Léris. Voilà, effectivement, je vous parlais de ce texte d'Antoine Léris, Vous n'aurez pas ma haine, auquel il a été fait référence de très très nombreuses fois, mais aussi le droit à la colère et à la haine, ça a été plaidé ici aussi, avec notamment cette phrase de l'avocat de l'association de victimes Life for Paris, qui a rappelé que la justice, c'est dominer la haine.
Voilà, et décalage entre vous et moi, c'est la liaison satellite. Procès fleuve, je le disais, il y a des dizaines et des dizaines de plaidoiries des parties civiles qui portent la voix de ceux qui n'ont pas pu venir témoigner, Charlotte.
Oui, parce que si 415 personnes ont témoigné ici à la barre, soit en octobre, soit lors de la deuxième session il y a quelques semaines, beaucoup n'ont pas voulu, n'ont pas pu, n'ont pas su venir témoigner à la barre, mettre des mots sur leur vécu et leur souffrance. Ce sont les victimes silencieuses. Alors beaucoup d'avocats sont venus raconter ces histoires, raconter cet homme qui explique qu'il était une passoire au Bataclan. On vient de l'entendre à l'instant à l'audience, comme vient de le rappeler son avocate, et qui n'a pas voulu témoigner. Il y a aussi eu cette référence à Charlotte et Alexandre, par exemple, dont les badges d'accès sont restés dans la boîte et qui ne pourront se raccrocher qu'au verdict qui sera prononcé par la cour. Ne les oubliez pas dans votre délibéré. C'est des mots qu'on a souvent entendus également dans la bouche des avocats, d'essayer de penser à toutes ces victimes, même si elles ont été très nombreuses et dont les histoires se mélangent malheureusement parfois.
Et une journée particulière cette semaine, mardi, le box des accusés était quasi vide.
Oui. Tout à fait. Seuls 2 des 11 accusés qui comparaissent détenus étaient assis, l'un à chaque extrémité de ce box. C'était une scène un peu particulière. Alors pourquoi ? Parce que l'un des accusés, Mohamed Ousmane, souffre de problèmes à l'œil et a refusé de venir à l'audience. Et puis le lendemain, il réclamait un rendez-vous en urgence avec un ophtalmologue qu'il n'a pas pu obtenir tout de suite. Et donc, par solidarité entre détenus et solidarité médicale, si on peut dire, les autres accusés ont refusé de monter à l'audience. Donc, on a assisté à cette scène un peu particulière avec seulement 2 accusés dans le box et les avocats qui plaidaient en faisant souvent référence aux accusés, mais sans les voir véritablement.
Charlotte, fin de ces plaidoiries de partie civile mardi prochain. Ensuite, quel est le calendrier ?
Alors, 3 jours de réquisitoire portés par les 3 avocats généraux. C'est le moment où ils vont argumenter sur chacune des charges qui pèsent contre les accusés et réclamer des peines à leur encontre. Ensuite, c'est parole à la défense, puisque dans un procès d'assises, la parole revient toujours à la défense en dernier. Tous les avocats vont se lever un par un pour défendre les 14 accusés présents à cette audience. Dernier mot pour les accusés eux-mêmes, s'ils le souhaitent. Et puis, le délibéré doit durer un peu plus de 2 jours avec, à la fin, le verdict. Il sera rendu le 29 juin.
Charlotte Piret en direct du palais de justice de l'île de la Cité à Paris. On en parlait tout à l'heure sous l'angle de la sécurité. France-Danemark ce soir en football, Ligue des Nations à Saint-Denis. Au plan sportif, l'enjeu n'est pas immense. Quoique, nous sommes à 6 mois d'une Coupe du Monde. C'est le moment de taper dans l'œil du sélectionneur pour ceux dont la présence au Qatar n'est pas acquise. Et il y a des places à prendre, Xavier Monferrand.
Après une saison longue et éreintante, le maître mot, c'est de répartir le temps de jeu. Ce n'est pas que pour reposer les corps. Le message envoyé aux jeunes est clair. C'est maintenant qu'il faut se montrer, marquer les esprits pour être du voyage au Qatar en novembre prochain. Le jeune attaquant de Leverkusen, Moussa Diaby, 22 ans, a bien compris l'enjeu.
On va pas dire que je joue très très gros sur ce rassemblement-là. Pour moi, tous les rassemblements, ils sont importants. Je vais peut-être avoir un peu plus de temps de jeu, à moi de faire de bonnes performances pour pouvoir me rapprocher de plus en plus.
Se rapprocher de la liste ou ne pas trop s'en éloigner, c'est le risque aussi pour certains cadres de l'équipe de France qui pourraient être victimes de la concurrence. Benjamin Pavard le sait, le nordiste était absent du précédent rassemblement au mois de mars en raison du Covid. Il revient comme défenseur central, son poste de prédilection. Mais il n'est pas tout seul.
La concurrence, il a à tous les postes, que ce soit arrière droit ou défenseur central. Après, il n'y a que le terrain qui parle. C'est ce que j'essaye de faire pour garder ma place. C'est vrai que la Coupe du Monde va vite arriver, mais si on y pense trop, je pense que c'est pas bon.
Ne pas trop penser au Qatar, oui, mais il ne faut surtout pas l'oublier. La préparation sera très courte à la rentrée. 2 matchs de Ligue des Nations fin septembre, avant le rassemblement prévu le 14 novembre, à 1 semaine du début de la Coupe du Monde.
Et le coup d'envoi ce soir, 20h45, c'est le début d'une série de 4 matchs pour les Bleus, la Croatie à 2 reprises et l'Autriche dans les 10 jours à venir. La météo dans un instant.
Vivez les élections législatives avec France Inter.
Retrouvez les émissions pour la campagne officielle enregistrées par les candidats tous les jours sur France Inter à 14h40, 21h03 et 23h10.
Partez à la découverte du monde avec Fabien Toulmé. L'auteur de l'Odyssée d'Hakim est allé à la rencontre de celles et ceux qui luttent partout sur notre planète pour connaître leur parcours, leur motivation et témoigner de 3 résistances populaires. Les Reflets du Monde, le nouveau roman graphique de Fabien Toulmé, est disponible aux éditions Delcourt.
L'Auditorium de Radio France présente le vendredi 17 juin à 20h le 2e concerto pour piano de Chostakovitch sous les doigts du stupéfiant virtuose Alexandre Kantorov. Avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Nico Franck, qui interpréteront le Don Juan de Richard Strauss et Iberia de Claude Debussy. Entrez au cœur du concert. Réservation maison de la radio et de la musique.fr.
Le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster.
toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
C'est orageux cet après-midi Jean-Pierre.
Oui, effectivement, avec une masse d'air chaud, humide et instable, les orages seront au menu de votre après-midi entre l'est de la Bretagne et la Normandie, de l'Île-de-France à la Bourgogne-Franche-Comté et de la Champagne-Ardenne à la région Grand Est. Prévoyez quand même d'assez belles éclaircies le long des côtes de la Manche et pour la moitié sud du pays, le ciel sera partagé entre éclaircies parfois belles et cumulus. Quelques ondées se produiront localement et par évolution diurne, des orages vont éclater sur le relief du massif central et du massif alpin. Côté température, les maximales évolueront entre 23 et 33 degrés du nord au sud.
Et ça va se gâter ce soir dans le sud-ouest.
Oui, effectivement, une nouvelle salve orageuse est attendue en fin de journée sur le sud-ouest et pour la nuit, il faudra être vigilant, ces orages seront localement violents, accompagnés de fortes pluies ou grêles et de rafales de vent voisines de 100 km par heure. D'ailleurs, Météo France a placé 10 départements du sud-ouest en vigilance orange-orage, entre les Pyrénées-Atlantiques et les Landes et jusque vers l'Aveyron.
Jean-Pierre Hameau, Météo France, il est exactement 13h30.
France Inter, le 13-14, Bruno Dubuc.
La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique vient de remettre son rapport pour l'année 2021. Cette autorité collecte et contrôle les déclarations de patrimoine des ministres, parlementaires, élus locaux, hauts fonctionnaires ou responsables publics. Elle vérifie aussi pour une partie d'entre eux qu'après leur mandat, ils ne profitent pas de l'influence et des réseaux acquis lors de leur vie publique pour favoriser leurs intérêts privés lors de leur reconversion professionnelle. Troisième rôle de la Haute Autorité, contrôler les activités de lobbying des associations, groupements d'intérêts, chambres de métiers et entreprises. Ça fait beaucoup, a fortiori une année de présidentielle, de nouveaux gouvernements et d'élections législatives. Alors comment travaille cette institution? Quel est son pouvoir réel? Comment améliorer encore les garanties de probité et de transparence de l'action publique? 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Le président de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique est notre invité jusqu'à 13h45. Bonjour Didier Migaud.
Bonjour.
Et merci de venir dans les studios de France Inter. Vous venez de travailler sur les dossiers des ministres pressentis ou finalement nommés il y a deux semaines maintenant. Alors il y a une grande part de confidentialité qu'on va respecter. Ce qui m'intéresse, c'est combien de temps passez-vous sur un dossier? Quelles pièces examinez-vous et que regardez-vous?
C'est un contrôle qui est obligatoirement sommaire avant la nomination.
Oui.
Mais il faut bien avoir en tête qu'une fois que ces ministres sont nommés, ils doivent nous déposer des déclarations de patrimoine, des déclarations d'intérêt qui font l'objet d'un contrôle approfondi de notre part. À partir d'ailleurs d'une déclaration d'intérêt, on peut imposer un certain nombre de déports à des ministres, dire attention, tel secteur, vous n'avez pas le droit d'y toucher, oui, compte tenu des activités antérieures qui ont été les vôtres ou des activités de votre conjoint. Et puis, du jour où ils sont nommés, ils ont une procédure de vérification approfondie de leur situation fiscale qui est également engagée par la direction des impôts, pour faire simple, de Bercy, sous le contrôle de la Haute Autorité, qui est, vous le savez, une autorité indépendante et collégiale.
Ils ont deux mois pour faire cela, donc ça veut dire que des ministres récemment nommés sont encore sous votre contrôle, si j'ose dire.
Oui, ils le sont d'ailleurs en permanence, à partir du moment où, dès qu'ils ont des changements dans leur situation personnelle ou bien dans le décret de leurs attributions, nous devons en être saisis.
Dans la vérification sommaire, comme vous dites que vous avez faite pour l'instant, comment ça se passe? Vous dites feu vert, feu rouge ou, comme dans certains autres domaines, vous pouvez émettre des réserves?
Comme vous l'avez dit, tout cela est confidentiel. Oui. Et cette procédure ne peut marcher que si elle est confidentielle.
Il ne s'agit pas de s'intéresser à des dossiers particuliers, mais sur le principe.
Nous faisons les observations que nous devons faire. Et effectivement, nous pouvons donner des conseils au président de la République en l'alertant sur tel ou tel risque. Après, c'est à lui, je dirais, de prendre ses responsabilités, et de tenir compte ou de ne pas tenir compte des observations que nous pouvons faire.
Rien n'est rendu public. Vous avez alors dans un autre
à ce stade-là.
Voilà.
Mais à partir du moment où les déclarations de patrimoine et d'intérêt nous seront adressées, bien sûr, nous les rendons publics. Les déclarations de patrimoine des ministres sont rendues publiques, les déclarations d'intérêts le sont également.
Avant de parler des législatives et des anciens ministres et de la question du pantouflage, entre guillemets, ça fait 2 ans et demi, Didier Migaud, que vous dirigez la haute autorité qui existe depuis plus de 8 ans. Au fond, est-ce que le respect de la probité s'améliore? C'est ce que vous dites. Comment est-ce que vous le mesurez?
À travers nos contrôles, des déclarations de patrimoine et des déclarations d'intérêt. Les déclarations de patrimoine, nous contrôlons l'exhaustivité, l'exactitude, la sincérité de ces déclarations. Et en fin de mandat, nous contrôlons s'il y a des variations anormales du patrimoine. Et nous interrogeons, bien sûr, les personnes concernées. Et, dans l'ensemble, nous constatons qu'une très très grande majorité des élus, des responsables publics respectent leurs obligations déclaratives.
Déjà, oui, remplissent la déclaration.
Remplissent leur déclaration. Nous avons malheureusement de temps en temps un certain nombre de personnes qui ne respectent pas leurs obligations déclaratives. Nous les relançons. Nous les relançons, nous leur adressons des injonctions et nous transmettons au parquet. Nous l'avons fait pour 55 situations, par exemple, sur 2021. Nous souhaiterions d'ailleurs, pour que la sanction puisse être plus immédiate et plus dissuasive, pouvoir disposer d'un pouvoir de sanction propre, de type sanction administrative.
Des amendes.
Des amendes, dans ce type de situation, puisque non seulement il y a non-respect de la loi, mais également, pendant le temps où la personne ne déclare pas, ne remplit pas ses obligations déclaratives, il n'y a pas de contrôle.
Oui.
Et ça, c'est une situation totalement anormale et il faut pouvoir sanctionner extrêmement rapidement. Sinon, nous sentons qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui sur l'ensemble de ces sujets qui est beaucoup plus forte qu'hier.
Quel que soit le type de personnel politique, ou c'est peut-être un peu plus difficile au niveau des élus locaux?
Oui, je constate par exemple que le non-respect des obligations déclaratives, il se situe non pas au niveau des maires, au niveau des présidents d'intercommunalité, mais très souvent au niveau d'adjoints ou de vice-présidents d'intercommunalité qui sont moins sensibles à ce type de situation. Mais dans l'ensemble, je leur écris beaucoup. J'ai pu faire plus de 2500 courriers sur l'année 2021 pour prévenir, justement, par rapport à des situations possibles de conflit d'intérêts, par rapport à des prises illégales d'intérêts potentiels, c'est-à-dire des situations où une personne peut se voir reprocher d'avoir pris un intérêt dans une situation particulière. Bon, et tout cela, nous le regardons aussi au niveau des projets de reconversion professionnelle. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas d'un ministre.
Et on va y venir, oui.
Bon, nous apprécions à la fois le double risque, le risque pénal et le risque déontologique.
Plus de 15 000 déclarations d'élus et responsables publics reçues l'année dernière. Évidemment, vous n'avez pas les moyens de toutes les éplucher.
Alors, on s'efforce de cibler les plus importants, mais quand même,
Vous êtes combien pour étudier tout ça?
Nous sommes 65.
Ouais.
On commence à avoir un problème de moyens. Je
l'ancien président de la Cour des comptes le dit.
Oui, je le dis. Alors, je suis gêné par le fait que aujourd'hui, vous avez plusieurs acteurs qui font la même chose et je trouve que c'est une très mauvaise utilisation de l'argent public alors que justement les moyens de chacun peuvent être contraints.
Oui.
Bon, et que la justice notamment et que des autorités comme la nôtre mériteraient d'avoir des moyens supplémentaires. Mais il serait bon que les pouvoirs publics commencent par s'intéresser.
Plusieurs acteurs en l'occurrence, lesquels?
Je pense sur les acteurs publics, à ce que peuvent faire l'Agence française anticorruption, par exemple, qui doublonne avec nous sur les acteurs publics, qui doublonne avec les chambres régionales des comptes, bon, sans obligatoirement une valeur ajoutée certaine. Bon, voilà. Alors même que l'on partage des préoccupations commune, qui est de lutter contre la corruption et contre les atteintes à la probité.
Là, il y a une source d'économie. Avez-vous besoin de plus d'hommes et femmes, pour dire les choses très clairement?
Oui, j'ai formulé un certain nombre de demandes. Voyez-vous, parce que sur les projets, par exemple, de reconversion professionnelle, nous pouvons émettre, le plus souvent, d'ailleurs c'est le cas, un certain nombre de réserves. À partir du moment où nous mettons des réserves, que nous encadrons, le futur projet de reconversion professionnelle, il faut pouvoir, bien sûr, contrôler si nos réserves sont bien suivies. Et tout cela demande du temps.
Alors vous suivez,
et des moyens.
Vous suivez comment ? Il y a notamment le cas de l'ancienne chef de cabinet de Marc Fesneau au ministre des Relations avec le Parlement, qui travaille désormais pour un regroupement d'entreprises qui vend des produits phytosanitaires. Marc Fesneau est désormais à l'agriculture, donc c'est son ancienne chef de cabinet.
Alors, ce qui ne se savait pas au moment où
Absolument.
Elle nous a présenté son projet de reconversion professionnelle.
Ma question est la suivante. Comment vous assurez-vous que les deux ne vont pas communiquer, si j'ose dire, en tout cas sur ces dossiers-là ?
Nous allons la surveiller de très près.
Ça se passe comment ?
Nous allons la surveiller de très près parce que dans les réserves que nous avons exprimées, sans savoir d'ailleurs que Marc Fesneau allait devenir ministre de l'Agriculture, nous lui avons dit qu'elle devait s'abstenir de toute relation avec son ministre et son ancien ministre, de toute relation avec les membres du cabinet avec lesquels elle travaillait. Donc nous avons formulé un certain nombre de réserves et nous allons suivre, bien évidemment, les réserves en s'adressant à cette personne-là, mais bien sûr, en ne prenant pas obligatoirement pour argent comptant ce qu'elle peut nous dire, en recoupant ces informations avec d'autres.
Et vous avez rendu public le cas de Jean-Baptiste Djebari qui avait trois...
Nous avons rattrapé un certain nombre de personnes comme
Absolument.
Ça, qui ne respectaient pas obligatoirement leurs réserves, bon, et avec des conséquences possibles de sanctions disciplinaires ou des signalements, bien sûr, à la justice.
Donc elles sont rattrapables. L'ancien ministre des Transports qui, parmi ses projets de reconversion dans le privé, voulait devenir vice-président exécutif de CMA-CGM, grande entreprise de transport. Pour lui, l'ancien ministre des Transports, là vous avez dit, c'est pas possible.
Oui, parce que CMA-CGM...
Et votre avis s'impose ?
Oui, oui, et c'est une bonne chose.
Je voudrais qu'on parle du lobbying, Didier Migaud. Il y a la question de Patrice au
Alors
standard.
Nous estimons qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui relèvent de notre champ, justement, sur les projets de reconversion professionnelle. Il faudrait aussi que les maires d'arrondissement, de grandes villes, que les adjoints aux maires, que un certain nombre de responsables d'établissements comme l'UGAP, vous savez, qui s'occupe des marchés publics,
oui.
Et des fournitures pour l'ensemble de l'administration, Solideo, qui travaille pour le compte des Jeux Olympiques avec beaucoup d'entreprises privées, que toutes ces personnes qui ont des responsabilités dans ces secteurs, quand ils ont des projets de reconversion professionnelle en direction d'entreprises, ils puissent passer par nous également.
Avoir un radar plus large. Patrice au standard. Bonjour Patrice.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Je pense qu'il n'y a pas que le patrimoine qui rentre en ligne de compte dans la probabilité d'un élu, dans sa conception, la fonction de la démocratie. Bon, je veux savoir quels sont les moyens de contrôle des candidats et des élus vis-à-vis de leur dépendance de groupes privés, voire publics même, vis-à-vis des lobbies hyper puissants qui pourraient influencer leurs décisions et parfois même sur les électeurs pendant les élections. Si je prends juste pour une seconde l'exemple
une de seconde s'il vous plaît, ouais. Allez-y.
Oui, Meuse-Haute-Marne, je vois que mes élus et surtout les collectivités ils s'assimilent à la corruption légale puisqu'ils sont carrément sujets sont des valets d'un lobby extrêmement puissant, en l'occurrence le lobby nucléaire.
Alors,
et ça c'est vraiment difficilement acceptable.
Didier Migaud, il y a l'obligation de se déclarer sur un registre, mais vous dites il y a des failles et cette règle est contournée. Comment est-ce qu'on améliore les choses ?
Il y a deux choses. Il y a le contrôle des déclarations d'intérêt des responsables publics. C'est transparent. Et c'est sur le site de la Haute Autorité, s'agissant notamment des élus. Donc, s'il y a des situations où des personnes sont en conflit d'intérêt, à partir du contrôle d'une déclaration d'intérêt que nous faisons, nous pouvons nous en apercevoir. Et les citoyens peuvent parfaitement nous faire des signalements, nous en recevons et nous instruisons bien sûr ces signalements et certains sont transmis à la justice quand nous voyons qu'il y a de la matière.
Ça c'est
Ensuite,
du côté des élus.
Il y a la régulation du lobbying des représentants d'intérêts à travers la mise en place d'un répertoire des représentants d'intérêts, ce qu'a voulu la loi Sapin 2 qui représente un progrès incontestable. Cela dit, c'est un bilan demi-teinte puisque vous avez des textes réglementaires qui ont contourné l'esprit de la loi et qui permettent de contourner la loi elle-même à travers des critères qui ont été imaginés par ces textes réglementaires et que n'avait pas prévu le législateur. Et puis, parallèlement, vous avez le champ de la décision publique qui a été ouvert de telle façon que un certain nombre de contrôles deviennent extrêmement difficiles. Donc nous appelons effectivement les pouvoirs publics à parfaire ce dispositif. Notre expérience nous fait dire que pour le moment, ce bilan n'est pas complètement satisfaisant. Alors, ça, c'est le moins qu'on puisse
ça
dire.
Ça passe par quoi très concrètement? Comment les règles sont contournées? C'est quoi? C'est quand c'est le ministre ou le parlementaire à l'origine d'une rencontre avec un lobbyiste, il n'y a pas de déclaration obligatoire. C'est des lobbyistes qui se déclarent une fois pour plusieurs actions.
Oui, ce qui fait, à partir du moment où l'initiative vient des responsables publics, eh bien, les grosses entités n'ont pratiquement rien à déclarer. Parce que très souvent, comme elles sont grosses, l'initiative revient aux responsables publics et non pas aux représentants d'intérêts.
C'est comme ça que Dassault déclare pas grand-chose, par exemple.
Exactement. Ouais. Et puis vous avez un critère absurde et profondément injuste qui a été inventé, c'est le critère de 10 actions par personne physique au niveau d'une entité. D'abord, c'est surprenant de raisonner au niveau de la personne physique et non pas au niveau de l'entité morale, de la personne morale. Et 10 actions, ça veut dire que vous pouvez multiplier le nombre de personnes qui font 9 actions pour passer sous les radars, ce qui est totalement absurde.
Merci beaucoup Didier Migaud, président de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. On trouve beaucoup
À votre disposition.
On trouve beaucoup de choses sur le site notamment. Bonne journée à vous. 13h45.
France Inter. Le 13-14.
Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno Dubuc.
Le vif de l'histoire et de la géographie aujourd'hui.
Oui, un géographe, Michel Fouché, qui réfléchit à une guerre dont c'est le 100e jour, mais qui dure depuis 8 ans ou bien davantage.
Avant cela, le feuilleton, dernier rendez-vous avec les auteurs en lice pour le prix du livre Inter. Et tout de suite, Frédéric Pommier. C'est une chanson. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur Dubuc.
La comédienne Valérie Carcenti, alias Liliane, dans la série Scène de ménage, est à votre micro aujourd'hui Frédéric. Elle joue dans deux films qui sortent ce mois-ci. Champagne, ce sera mercredi prochain, et L'homme parfait, qui sortira lui le 22 juin.
Et c'est de Stromae qu'elle a choisi de me parler, Valérie Carcenti. Stromae qui vient de sortir son troisième album après plusieurs années de silence médiatique.
Heureusement qu'il est revenu, c'était tellement triste qu'il parte. Et il a un courage incroyable ce mec. Il est droit debout et il parle de ses faiblesses. Il parle vrai, quoi. Il a pas peur de ce qui fait peur à tout le monde. Enfin, il est incroyable. Donc je pense qu'il aide beaucoup de gens aussi.
En acceptant de livrer ses fragilités.
Bah oui, c'est-à-dire qu'il autorise les autres à faillir, à tomber, à avoir peur, à être terrorisé. Tout ça, c'est beau. Hein. Franchement, c'est un artiste pour qui j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration. Études dit travail, qui dit taf dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et divorce,
qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde,
qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort. Pour oublier tous les problèmes, alors on dort.
C'est donc un extrait du premier album de Stromae qu'a choisi Valérie Carcenti, Frédéric.
Alors on danse, ouais. Son premier tube, il est sorti en single en 2009, mais c'est un souvenir de 2014 qu'il reste associé pour Valérie Carcenti, un souvenir de théâtre.
J'ai un souvenir très particulier, c'est que quand j'ai joué Chambre froide avec Pascal Arbillot et Anne Charrier, qui sont deux amies, une pièce de femme, on était toutes les trois, et la pièce était hard, c'était à la fois de la comédie, en même temps c'était face-bat, quoi. Et donc on chauffait dans les loges, et cette chanson était une des chansons qui nous permettait et de danser, et de chanter, et de se chauffer, vraiment, avant d'entrer en scène, comme dans une arène. Et puis ce que j'adore dans cette chanson, c'est que, voilà, elle a un swing qui fait qu'on a envie de danser, c'est sympa et tout, et en fait, bah c'est vraiment sur nos misères, quoi. C'est vraiment sur comment transcender la peine, comment transcender la difficulté, et c'est beau, j'adore.
Problème ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante.
Vous dansez beaucoup?
J'adore danser, j'adore ça. Mais je suis chiante parce que je peux pas danser sur n'importe quoi. Je ne bouge que si ça. Ah, s'il y a une pulsation de vie, s'il y a quelque chose. Et donc, sur des fins de tournage, je me suis retrouvée dans des soirées où tu peux plus m'arrêter. C'est un exutoire absolu.
Donc, cette chanson-là, elle fonctionne pour danser.
Ah ouais. Ah oui, celle-là, elle fonctionne bien.
Malgré la gravité des propos.
Mais justement.
Et puis seulement quand c'est fini.
Alors on danse.
Pour oublier la tragédie de la vie, on danse.
Ou on fait l'idiote. Les comédiens qui font de la comédie, pour moi, c'est pareil. Enfin, d'ailleurs, on n'a pas besoin d'être comédien. Mais rire, ou faire rire, ah, c'est tellement merveilleux, quoi. C'est vraiment le remède absolu au chagrin.
Eh ben, il y en a encore.
Contre la peur, contre la tristesse, contre le désespoir.
Alors on danse.
Les seuls remèdes que j'ai trouvés, c'est l'art et puis la connaissance aussi, pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe, mais... La beauté, la simplicité d'une œuvre et une chanson en est une pour moi, même si c'est 3 minutes, ça me réconcilie avec tout et avec moi-même.
Alors on danse.
Ah oui.
Stromae, Alors on danse, c'était donc Frédéric, le choix de la comédienne Valérie Carcenti.
Que l'on retrouvera au cinéma mercredi dans Champagne de Nicolas Vanier, puis le 22 juin dans L'homme parfait de Xavier Duringer.
Dernier rendez-vous avec les auteurs en lice pour le prix du livre Inter. Aujourd'hui, Antoine Wauters, auteur de Mahmoud ou La montée des eaux aux éditions Verdier. Comment parler des horreurs en Syrie avec infiniment de poésie. Antoine Wauters, Eva Bétan, résumé de l'histoire et puis question.
C'est un vieil homme, un vieux poète, un vieux fou, dit certains, qui parle seul devant un monde englouti. Le texte suit le rythme de sa parole avec des retours à la ligne au bout de quelques mots ou de quelques phrases qui visuellement évoquent un poème. Est-ce cela qui nous fait entrer dans ce livre si facilement, qui nous fait nous y immerger, de même que Mahmoud plonge dans un lac de barrage pour voir ce qu'il y a en dessous? Et pourtant, si des fragments de beauté nous y attendent, ils voisinent avec le carnage qui a ravagé la vie des Syriens, car c'est de la Syrie dont il est question, comme il a ravagé celle de Mahmoud, commis par les Assad père et fils, Hafez et à présent Bachar, surnommé ici l'ophtalmologue aux yeux de requin fou. La même plume décrit les tortures infligées par les spires de Bachar el-Assad, puis délicatement dit la nostalgie imprégnée à un mausolée de pierre. Ce livre nous fait approcher ce que peut être une dictature avec le plus tragique des héros, un homme qui a survécu au sien que cette dictature a décimé. Vous prenez ce héros-là comme si on était dans un monde où finalement tout ce qu'on a entendu n'arrivait pas à nous atteindre. Est-ce qu'il fallait ce personnage-là pour pouvoir atteindre la sensibilité des gens aujourd'hui ?
En tout cas, moi je l'ai imaginé, je l'ai construit comme ça. Je me suis rendu compte que si je voulais parler de la Syrie, le lieu était très important, c'est-à-dire l'endroit où j'avais placé ma caméra. Et donc j'avais vraiment envie de me trouver dans un endroit qui était à la fois en plein centre du conflit, et ce lac Assad se trouve vraiment au cœur de la Syrie. En 2017, moment où le livre se tient, le barrage de Tabqa est tenu par les hommes de Daesh. Donc la guerre est vraiment très vive à cet endroit-là. Mais j'avais envie d'essayer de montrer aussi en quoi, justement, la guerre est un engloutissement. Pour moi, c'est une image très simple, un vieil homme sur une barque qui descend dans son passé, et je trouvais que c'était une belle manière de raconter aussi l'histoire d'un pays.
Il y a aussi ce qui s'est passé dans les années très récentes, notamment ce qu'on a appelé les printemps arabes. Ouais. Mahmoud, lui, il a vécu quand ces printemps arabes arrivent, il y croit un peu moins. Je voudrais vous lire un extrait, page 75. Sa fille, Nazifeh, se remet à peine de maladie. C'était le printemps, ce fameux printemps. Nous voulons la révolution de la vie, paix et démocratie. Quel père refuserait ça? Qui ne voudrait pas de ça pour ses enfants? Ce jour-là, quand elle est descendue avec son sac, son bandeau, sa gourde métallique et le fiel aux yeux, elle nous a dit qu'elle allait se battre, comme ses frères. Et tu sais quoi? J'avais beau ne pas le lui dire, je savais que la maladie qui l'avait frappée allait frapper le pays. Mais qu'est-ce que le vouloir d'un père contre la soif de liberté d'un enfant? Et je lui dis d'être prudente et que je l'aimais. D'une manière très simple, vous nous racontez aussi le printemps arabe et des enfants qui ne sont pas revenus.
J'ai lu beaucoup de poètes syriens contemporains et ils parlent de ce moment en particulier, des printemps arabes, et ils montrent comment pas mal de personnes en Syrie, à ce moment-là, avaient une méfiance, se disaient, on comprend que nos jeunes descendent dans les rues. Et en même temps, les personnes plus âgées se disaient, il faut pas s'y tromper. On sait qui on a face à nous, on a Bachar el-Assad, et beaucoup de poètes ont écrit, attention, est-ce qu'on ne se dirige pas vers une tente funéraire ?
À un moment donné, Mahmoud dit, ce pays est une publicité pour la mort.
Oui. Pour écrire ce livre, j'ai fait un travail de documentation qui était assez énorme et c'était très dur de lire ça. Et on a l'impression effectivement de baigner dans un lac rempli de corps. Malgré le sentiment de rage qui moi m'a animé à ce moment-là, j'ai voulu essayer de trouver une parole qui serait de l'ordre de l'apaisement. Je crois qu'aujourd'hui on a peut-être besoin de cette parole poétique extrêmement humaine et simple pour nous raconter des choses qui, sans ça, nous mettent et nous tiennent terriblement à distance. Et il me semble que si on n'est plus capable, humain aujourd'hui, de ressentir de l'empathie pour des gens qui vivent finalement pas très loin de chez nous, alors c'est qu'on a perdu quelque chose de très important. Et si la littérature peut permettre ça, j'aurais pas écrit ce livre en vain.
Antoine Wolters, Mahmoudou, la montée des eaux chez Verdier. C'est dimanche que les jurés du prix du Livre Inter se réunissent. Le lauréat sera proclamé lundi dans le 7-9 et il sera avec nous dans le 13-14 lundi prochain, 13h55.
France Inter. Le 13-14.
Jean Lebrun, Michel Fouché dans votre Vif de l'Histoire aujourd'hui. Un géographe donc qui aime arpenter le monde, titre d'un volume de mémoire qu'il a publié récemment. C'est un ancien conseiller d'Hubert Védrine avec qui il était allé en Ukraine en 1998. Un quart de siècle plus tard, il publie sur l'Ukraine un texte bref que vous jugez précieux. C'est dans la petite collection Tracts de Gallimard.
Alors de quoi parle le géographe ? Eh bien des horizons. De quoi partent-ils du terrain et des cartes ? Est géographique ce qui est cartographiable. J'ai eu la chance, Bruno, l'autre jour, de visiter le bureau que le général de Gaulle occupa à Paris, rue de Solferino, après son départ du gouvernement en 1946. Pas de téléphone, cet instrument qui vous emprisonne dans l'immédiat, mais quantité de cartes, non pas pendues au mur, mais fixées sur une tringle d'acier. De Gaulle les tournait comme les pages d'un livre. Les cartes, dit Fouché, ça ne se regarde pas, ça se lit.
Et De Gaulle disait que la politique d'un État tenait dans sa géographie. Alors que disent au géographe Michel Fouché les cartes de la Russie et de l'Ukraine ?
Alors il considère ce qu'il appelle l'isthme qui va des pays baltes au nord, il a été un moment ambassadeur à Riga, à la mer Noire au sud. C'est une zone où la terre est instable. Des guerres terribles du XXe siècle, nous, Européens de l'Ouest, nous ne nous souvenons que d'un conflit binaire. La Russie contre l'Allemagne, mais les choses ont été beaucoup plus compliquées. S'affrontaient la Russie et la Pologne, la Russie et les pays baltes, la Russie et l'Ukraine. Et quand les Russes accusent les Ukrainiens d'avoir été nazis en 1942, ce sont ces guerres dans la guerre qui rejouent parce que le géographe est aussi historien.
Et il cherche à saisir les cartes mentales des différents partenaires.
Parce que les États font la politique de leur géographie. Mais Michel Fouché retourne la formule. Les États peuvent construire aussi la géographie de leur politique. Alors je m'explique. Poutine a dans la tête une carte mentale de la Russie. Il veut la réaliser sur le terrain. Il ne peut concevoir la Russie que comme un grand espace colonial terrestre d'outre-terre qui a des sujets dans tous les pays environnants. Et il doit continuer à protéger tous les russophones qui continuent d'y vivre en les tenant assemblés sous son marteau. Manteau. Solzhenitsyn disait, et Fouché le cite, « Les vapeurs de l'Empire ont vite fait de monter à la tête du peuple russe jusqu'à l'enivrer. » Ben on en est là, au moment de la cuite, hein, je dirais même de la grande fuite en arrière vers un horizon de nostalgie.
Et la carte mentale des Ukrainiens ?
Bah, c'est une nation parvenue, en effet, mais un État-nation en construction dont la carte mentale s'est redessinée à une vitesse accélérée. Fouché rappelle la vision qu'en a eue Brzezinski. Brzezinski, c'est un personnage, un grand inspirateur de la politique étrangère de Washington, un peu l'anti-Kissinger. Kissinger, aujourd'hui, recommande des cessions territoriales de l'Ukraine. Brzezinski, d'origine polonaise, voyait l'Ukraine tout autrement qu'une dépouille à partager. Alors, suivez, Bruno. Considérez l'Europe d'ouest en est. Vous avez eu la réconciliation franco-allemande. Il y a sur le même modèle la réconciliation germano-polonaise. Paris, Berlin, Varsovie, ça peut faire un triangle. Prolongeons par la réconciliation ukraino-polonaise. L'invasion russe est en train de la réussir. Paris, Berlin, Varsovie, Kiev. Ce serait un axe de sécurité au nord de l'Europe. Alors, si d'aventure Emmanuel Macron se rendait à Kiev d'ici la fin de sa présidence européenne, il n'est pas sûr qu'il ait dans la tête cette carte mentale qu'il doit juger trop américaine.
Est-ce que les cartes mentales ou physiques permettent aux géographes de dessiner la guerre demain?
Fouché, j'arrive pas à le dire, fait simplement observer que les Russes, quand ils concentrent leurs troupes et leur artillerie dans le Donbass, ont l'avantage de se tenir dans une zone bien desservie par les chemins de fer, et ils restent près de leurs propres frontières, ce qui est favorable à leur logistique. Les Ukrainiens, eux, sont très éloignés de la frontière polonaise par laquelle passent leur équipement et leur ravitaillement. Mais en revanche, quand on observe les cartes mentales, on voit que les forces morales sont plus grandes du côté ukrainien. Est-ce que ça suffit à décider d'une sort, d'une guerre?
Michel Fouché, Russie, la carte mentale du duel, c'est dans la collection Tract Gallimard et c'est à moins de 4 euros. La Terre au carré, dans un instant avec Mathieu Vidard, c'est vendredi, c'est club.